qu'on va beaucoup se promener dans les Actes ce matin. Et on prépare ça en allant voir des promesses, des prophéties qui avaient été données sur la venue de l'Esprit. Soyez bien attentifs à la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît.
Alors, la lecture biblique ce matin va être faite dans l'édition Second. Je vais lire trois passages qui vont être affichés à l'écran, étant donné que c'est court. Alors, le premier passage est tiré du livre du prophète Ézéchiel, qui a vécu 600 ans avant Jésus-Christ. Alors, Ézéchiel 36, versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Le second texte est tiré du livre du prophète de Joël, qui a vécu 800 ans avant Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Maintenant, le dernier texte est tiré du livre des Actes des apôtres, qui est rédigé par les premiers chrétiens après Jésus-Christ. Chapitre 1, versets 1 à 9. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.
On va aller ensemble dans la prière. Père éternel, on est assemblés dans ta présence. Seigneur, par la foi, nous croyons que tu es ici ce matin d'une manière particulière. Seigneur, nous croyons que tu es non seulement le Créateur, mais tu es le Créateur qui est venu vers nous, qui est venu nous rencontrer, qui est venu nous parler, qui est venu nous révéler qui tu es comme Créateur, mais qui tu es aussi comme Père et comme ami, Seigneur. Père, je suis reconnaissant pour l'œuvre de ton Fils à la croix, pour ce sacrifice qu'il a fait, qui a rendu possible ma réconciliation avec toi, mon Dieu. Moi, dans ma faiblesse, dans mes imperfections, dans mes péchés, Christ a rendu possible que je m'approche de toi. Et je suis reconnaissant, Père, aussi, pour ton Esprit Saint, qui nous a été donné, à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, qui nous a été donné personnellement, intimement. Je suis reconnaissant, Père, pour ton esprit qui habite en moi, qui produit en moi le vouloir et le faire, qui m'aide à être attentif à ce que tu veux me dire, attentif à ta parole, qui m'aide à avoir de bonnes dispositions de cœur, qui m'aide à entendre les messages comme je ne les ai jamais entendus avant, Seigneur, qui m'interpelle personnellement lorsque je t'attriste, lorsque je m'éloigne de toi, Seigneur. Je suis reconnaissant pour ton esprit qui habite au milieu de cette assemblée, au milieu de nous, qui a créé ce corps, cette église, cette famille, cette assemblée, qui nous apprend à s'aimer les uns les autres, qui nous apprend à grandir, qui appelle certains d'entre nous à devenir des leaders dans l'église, à devenir des anciens dans l'église, des diacres, des diaconesses, qui en appelle d'autres à partir sur le champ missionnaire, cet esprit qui nous remplit de force pour pouvoir parler de toi, Seigneur, à un monde qui a tellement besoin d'entendre parler de ce message d'amour, de grâce, Seigneur, que tu as. Je prie, Père, d'être avec moi ce matin. Être avec ma bouche, avec mon cœur, viens me remplir de ton esprit, Père. Et que tout ce qui sort de ma bouche ne vienne pas premièrement d'un individu qui est là et qui veut paraître, qui veut communiquer, mais que toi, Seigneur, tu parles à travers moi et ta parole à nos cœurs, comme tu l'as fait autrefois et comme tu le fais depuis 2000 ans, Seigneur. Et que chacune des personnes dans cette salle ait ce sentiment, cette impression qui vient de toi, Seigneur, cette conviction qui vient de toi, que tu es présent au milieu de nous. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Amen. Vous pouvez tourner avec moi dans Acte 2, mais je me demande si ça vaut la peine que vous tourniez parce que je vais me promener partout dans les passages ce matin. On va vraiment être dans toutes sortes de passages. Lorsqu'on pense à l'Église de l'Espoir, puis lorsqu'on pense à la ville de Longueuil, puis au Grand Longueuil, c'est quoi le rêve qu'on a? Lorsque tu connais personnellement Jésus-Christ, c'est quoi le rêve que tu as pour la ville du Grand Longueuil? On rêve de voir des milliers de personnes venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. On rêve de voir des milliers de gens. Et c'est mon rêve de voir de mon vivant des milliers de personnes pour qui Jésus-Christ n'est pas dans leur vie actuellement. Dans le Grand Longueuil, je parle. De voir des milliers de personnes ouvrir leur cœur à Jésus-Christ, connaître personnellement Jésus-Christ. Amen. C'est ça mon rêve. J'espère que c'est ton rêve. J'espère que tu es capable de croire en un Dieu aussi grand que ça. Et lorsqu'on vient de terminer le livre des Actes, on a des passages qui nous viennent à l'esprit. Dans Actes 2, 41, voici ce qu'on lit. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là » On parle d'une journée, d'accord? « En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » 3000 personnes en une journée. Mon rêve à moi, et notre rêve à nous, c'est de voir des milliers de personnes de notre vivant. Pas se dire on va aller en chercher un ou deux par année. Non, mais on va leur faire connaître Jésus-Christ. Et l'Esprit va nous précéder et des milliers de personnes vont venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Je rêve de voir une église, cette église, remplie d'assurance, de courage pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je rêve de voir une église qui marche tout près de Dieu. Et ce que je veux dire par là, c'est une église qui quotidiennement, régulièrement, dans son expérience personnelle, se sent près de Dieu et se sait près de Dieu parce qu'on est à l'écoute de la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous parle à travers sa parole, lorsque Dieu nous parle à travers un frère, une sœur qui vient nous parler, lorsque Dieu nous parle à travers la prédication, le cœur est disponible. On n'est pas en lutte constante avec Dieu, mais le cœur est disponible pour dire « Parle-moi, Seigneur, parce que chaque jour, quand je commence ma journée, le désir de mon cœur, c'est d'être rempli de ton esprit et porter dans mon cœur ce fruit de l'esprit. Je rêve d'une église semblable. Amen. Une église qui marche tout près de Dieu. Et une église qui, par conséquent, déborde d'amour et de générosité pour son prochain. Une église qui, lorsqu'elle rentre en contact avec des besoins à l'intérieur de l'assemblée de la famille de Dieu, mais partout avec mon prochain, le réflexe spontané, la réaction spontanée, c'est de dire, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Peut-être c'est prier, peut-être c'est donner, peut-être c'est aider, peut-être c'est juste prêter une oreille disponible, attentive, apporter un message d'encouragement à ta parole, mais mon cœur est interpellé. Mon réflexe, c'est d'aimer mon prochain. Voici mon rêve. Parce que c'est l'Église que je trouve dans le livre des Actes des Apôtres. C'est ça que je vois. Comment on fait ça? Comment on construit une église comme ça? Vous savez, je suis parti pendant 11 semaines pour un congé, pour aller prier, chercher la face de Dieu pour une vision pour l'église pour les prochaines années. Puis je suis allé visiter des églises, 11 églises. Je suis allé passer en entrevue 13 pasteurs. Je les ai rencontrés. J'ai pris du temps avec eux. Qu'est-ce que je suis allé chercher là-bas? Est-ce que c'est une stratégie que je suis allé chercher? Est-ce que ça nous prend la bonne méthode pour réussir à bien organiser les choses puis avoir nos pancartes à l'extérieur, partout dans le Grand Longueuil, puis les gens disent « Wow, c'est là que ça se passe » puis on va être tellement bien organisé avec des bonnes stratégies que, paf, ces choses-là vont se passer. Il y a une formule. Il y a une formule pour conditionner des conversions. Il y a une formule pour conditionner l'amour dans le cœur des gens. On va le répéter tellement, ça va devenir un mantra. Ça va devenir un mantra, puis on va produire ça. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Comment on fait ça, une église semblable? Comment on construit une église semblable? C'est pas la bonne question. C'est pas la bonne question. C'est qui peut faire ça? Qui peut construire une église semblable? Et il y a une seule personne qui peut le faire. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait ça. Amen? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. On peut avoir toutes les méthodes, toutes les stratégies, les meilleurs comités, les meilleures affaires qu'on va organiser. Ça va toujours demeurer des projets d'hommes dans la mesure où ce n'est pas l'Esprit qui est en train de construire ça. Et c'est l'Esprit qui produit ces miracles-là de conversion, de nouvelle naissance. Il y a une seule personne qui peut produire cela. C'est pas un pasteur, c'est pas le pasteur le plus charismatique du monde, c'est pas la meilleure équipe au monde, c'est pas les meilleures planifications au monde. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Parce que lorsque tu lis le livre des Actes, quand tu passes à travers ce livre-là, il n'y a pas d'autre explication possible. Comment expliquer qu'une poignée, littéralement, une poignée d'hommes et de femmes, généralement peu instruits, en quelques années, ont bouleversé, ils ont mis sans dessus-dessous la ville de Jérusalem, une ville théologique, une ville avec des convictions très solides, une ville qui inspirait par son monothéisme, elle inspirait toute la culture grecque qu'il y avait à l'époque. Mais en quelques années, cette poignée de gens-là qui n'étaient pas des plus instruits, ce n'étaient pas les grands théologiens de Jérusalem qui étaient là. La majorité d'entre eux, très peu instruits. Comment expliquer que cette poignée d'hommes, de femmes ont bouleversé Jérusalem, ont bouleversé Israël? Comment expliquer que ces gens-là ont vécu une intimité, un partage, une générosité les uns entre les autres qui était tellement grande que toute la ville parlait de ça, parlait de l'amour qu'il y avait là? Imaginez un instant, si on veut faire la comparaison, imaginez un instant que toute la ville de Longueuil, tout le grand Longueuil, 380 000 personnes, la majorité d'entre eux ont entendu parler de l'amour, du partage dans cette église-là. Vous savez, le premier réflexe, c'est de dire, « Ouais, mais il faudrait même qu'ils sachent qu'on existe. » Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des affiches, on va mettre des enseignes, on va avoir une stratégie publicitaire pour se faire connaître. Puis là, on va leur dire, « Ici, on s'aime. » Imaginez un instant! Qu'au contraire, le buzz qui court dans le Grand Longueuil, c'est qu'il y a une gang de malades qui s'aiment, qui prennent soin, ils accueillent des gens qui viennent de partout sur la terre, des gens poqués, des gens délaissés, des gens brisés, ils prennent soin d'eux, ils sont généreux. C'est ça qui se passe là-dedans. Comment on explique ça? Comment vous expliquez ça, cette affaire-là? Avec un plan de match, il n'y en avait pas de plan de match. Les gars ne savaient pas ce qu'ils faisaient du tout. Du tout. Comment expliquer que ces gens-là vont s'en aller avec leur petit message de paix et d'amour dans toutes sortes de villes et villages, puis lorsqu'ils arrivent dans un village, les gens vont, certains vont les accueillir, mais très rapidement, il va y avoir de l'animosité, parce que ces gens-là avaient un message, ils disaient, voici, il y a une seule personne, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui fait la différence, il y a un seul Fils de Dieu, c'est lui qui a fait toute la différence. Alors rapidement, il y a des gens qui disent, waouh, c'est génial, parle-moi plus de lui, d'autres sortent les roches, très rapidement. Puis ces gens-là arrivent avec leur message d'amour, se font persécuter, se font jeter en prison. Certains d'entre eux sont mis à mort. Et ceux qui demeurent vivants se lèvent, passent au prochain appel, s'en vont dans un autre village. D'autres restent là, font d'une église, bâtissent ce témoignage-là. Comment expliquer ça? Par des stratégies? Comment expliquer que ces gens-là ont une attitude de sacrifice, de don de soi, et c'est pas avec des explosifs autour de la taille, d'accord? Le sacrifice, c'est le sacrifice d'un cœur qui se donne, d'une maison qui s'ouvre, d'un repas qui est partagé, d'une bourse qui est ouverte pour aider le prochain. Dans des situations incroyables, même certains vont jusqu'à vendre des propriétés pour répondre à des besoins, pour aider. Comment expliquer que dans cette église-là, il n'y a pas de discrimination? Ça n'existe pas, ça. En fait, au départ, je veux dire, l'Église était essentiellement composée de Juifs qui avaient appris depuis des siècles comment, lorsque tu veux honorer l'Éternel, tu adoptes un certain nombre de coutumes pour refléter un style de vie qui va parler de ce Dieu-là. Et là, vous avez une vague de conversion de gens qui deviennent chrétiens, qui viennent pas du milieu chrétien. Ils viennent avec leurs habitudes, ils ont un autre style de vie. Et là, la grosse question, c'est, oui, mais attends un petit peu, est-ce qu'on leur demande d'adopter toutes nos coutumes? Et non, il y a l'ouverture à ce moment-là de dire, attends un petit peu, il y a des choses qui ont été accomplies en Jésus-Christ. Je pense qu'il y a plein de choses que nous, on pourrait continuer à faire comme Juifs qui ont cru en Jésus, mais c'est pas nécessaire de leur demander à eux de faire ça. On va faire le tri là-dedans pour qu'il y ait juste le message pur de l'Évangile, parce que beaucoup de choses ont été accomplies en Jésus. Et ça, c'est toute une révolution parce que ça produit un accueil absolument incroyable. Alors, les gens sont accueillis au milieu d'eux, sans discrimination, de toute culture, de toute nation, les gens sont accueillis. Comment expliquer, enfin, que ces gens-là vont être pris de tellement de générosité qu'ils vont se mettre à envoyer de l'argent à des chrétiens un peu partout dans le monde pour aider des gens qu'ils connaissent même pas, simplement parce qu'ils ont cru en Jésus, sont moins en moyen, ils ont besoin d'aide. La seule explication logique, c'est qu'il y a une œuvre surnaturelle qui s'est passée dans ces années-là, au milieu de ces gens-là, et le facteur principal, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Amen? C'est l'Esprit Saint qui a fait ça. C'est la seule explication. Alors, comment on produit une église comme celle-là? C'est pas ça la bonne question. C'est qui produit une église comme celle-là? C'est le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui est appelé ailleurs dans les Écritures, comme l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, c'est toujours la même personne. Cette personne-là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. La Sainte Trinité. Vous savez, c'est quoi la Sainte Trinité? Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est lui. C'est de cet esprit-là dont on parle. Le même esprit qui, dans l'Ancien Testament, venait sur les rois, venait sur les prophètes, afin de les conduire pour qu'ils puissent diriger le peuple à servir Dieu. Le même esprit par lequel les prophètes recevaient une révélation de Dieu et l'apportaient au peuple. Quand les prophètes parlaient au nom de Dieu, c'était l'esprit qui venait sur eux, qui leur donnait cela. C'est comme ça que le livre des Actes nous le dit. Pierre parle de ces temps anciens et il dit, c'est l'esprit qui parlait à travers les prophètes. C'est le même esprit qui est venu sur Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste puisse dire, Celui qui vient après moi, vous baptisera pas d'eau comme moi, mais il va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Et écoutez bien ceci. C'est super important de saisir ça. C'est le même esprit qui est venu sur la personne de Jésus-Christ au moment où Jésus a été baptisé. Lorsqu'on pense à Jésus, on pense à Dieu le Fils, celui qui avait en lui-même tous les pouvoirs, et c'est vrai, celui qui avait toute autorité. Si vous connaissez votre Bible, vous êtes chrétien depuis quelques années, vous savez que Jésus, c'est comme, wow, c'est big, je veux dire, ça va pas, la météo va pas, il prend la parole, paf! Mais ce qu'on ne réalise pas lorsqu'on n'a pas étudié l'Évangile de Luc, c'est que ce que Jésus a fait, qui est extraordinaire et merveilleux, même lorsqu'il prenait la parole, il le faisait par l'Esprit de Dieu. Alors, ce matin, on termine le livre des Actes des apôtres, d'accord? Pour ce matin, on va l'appeler les Actes du Saint-Esprit. On va l'appeler les Actes du Saint-Esprit. Et on a besoin de réaliser que tout le ministère puissant et extraordinaire que Jésus a eu, il l'a eu par l'Esprit de Dieu. Si vous voulez aller plus loin dans votre réflexion, si vous voulez continuer la réflexion sur le rôle de l'Esprit dans l'Église aujourd'hui, prochaine étape, allez lire l'Évangile de Luc. C'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui a écrit les Actes des apôtres, c'est lui qui a écrit l'Évangile selon Luc. Et soyez attentifs au ministère du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Et vous allez réaliser assez rapidement que ce que Jésus a fait, il l'a fait par l'Esprit de Dieu. Alors lorsque Jésus quitte et il donne cette promesse, il dit « Voici maintenant, mon Esprit va venir sur vous. L'Esprit de Dieu va venir sur vous. » Il est en train de dire « Attendez un petit peu, vous n'avez rien vu. » On a brassé Israël ensemble, vous allez brasser la terre entière. Vous allez brasser la terre entière. Et c'est ce même esprit-là qui continue cette œuvre glorieuse depuis des siècles à travers l'Église. C'est ce même esprit-là, c'est la seule explication. Je vous lis quelques passages qui sont frappants dans Luc 4, très rapidement. Luc 4, verset 14. « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. » Revêtu de la puissance de l'Esprit. Je pensais que Jésus était puissant. Oui, mais il y avait une tank de réserve en plus. C'est le Saint-Esprit. Revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays de l'entour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Jésus lui-même a été revêtu de sa puissance. Maintenant, je vais vous lire un passage où Jésus va dans une synagogue à Nazareth, et puis il va lire, et puis c'était coutume à l'époque d'inviter celui qui était reconnu comme un docteur de la loi, celui qui enseignait, s'il était en visite dans ta ville, venait à la synagogue, les docteurs de la place, les rabbins de la place allaient inviter ce docteur-là à lire un passage des Écritures. Et le passage que Jésus lit à ce moment-là est tiré d'Ésaïe. Soyez bien attentifs, c'est vraiment un beau texte, vraiment un beau passage. Voici ce qu'on lit, vous pouvez le lire ici sur l'écran. Dans Luc 4, verset 17, on lit ceci. « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ils attendaient qu'il commente sa lecture. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus vient juste de dire, tout ce que vous allez assister comme ministère de puissance, ce message de paix, cette bonne nouvelle, c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné. J'ai été oint de l'Esprit pour annoncer la délivrance qui vient de Dieu. Et cette délivrance-là, c'est le salut en Jésus-Christ. Et ce qu'il y a d'absolument extraordinaire lorsqu'on arrive dans le livre des Actes, c'est que Jésus donne la promesse que ce même esprit qui l'accompagnait dans tout son ministère va être donné à l'Église afin que l'Église puisse à son tour porter ce message avec une puissance incroyable. Et on commence à lire le livre des Actes et c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit. On voit une Église qui est remplie de courage pour ouvrir la bouche. On voit une Église qui est passionnée pour Dieu. On voit une Église qui est très disponible à ce que Dieu veut faire. On voit une Église qui déborde d'amour dans l'Église et envers les gens à l'extérieur. Le même Esprit qui a revêtu Jésus de puissance remplit les cœurs des chrétiens depuis 2000 ans, bâtit l'Église et nous conduit dans la mission depuis 2000 ans. Alors, brièvement, ce qu'on va faire ensemble ce matin, brièvement, on va aller voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire pour notre Église ici. Quelle est l'œuvre que l'Esprit fait particulièrement dans les actes et qu'il continue à faire et qu'il veut faire dans cette Église ici? Premièrement, c'est le Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ qui crée les chrétiens. Retenez ça, le Saint-Esprit crée les chrétiens. Je ne sais pas si ça rentre dans votre théologie. C'est le Saint-Esprit qui crée de toutes pièces un chrétien. Ça ne s'endoctrine pas quelqu'un pour qu'il devienne chrétien. Ce n'est pas avec des cours qu'on produit des chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui crée des chrétiens. Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament les passages que Oscar nous a lus tout à l'heure dans Ézéchiel 36, 26, 27. Il avait dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament qu'un jour viendrait où un cœur nouveau serait donné, un esprit nouveau serait donné. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient et qui crée un chrétien. Parce qu'il y a cette naissance nouvelle-là qui vient. Dans Acte 1, 4, Jésus l'avait annoncé, il dit, voici ce qu'on lit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée des chrétiens. Et quelques jours plus tard, après que Jésus ait dit cela, Jésus est remonté dans la présence du Père. Quelques jours plus tard, alors que les disciples étaient en train de prier, le Saint-Esprit est venu sur eux. Quand Pierre a ouvert la bouche pour expliquer ce qui est en train de se passer, il a lu ce passage qui a été lu tout à l'heure dans Joël, dans le prophète Joël, Joël 2, 28, 29. Après cela, prophétie dans l'Ancien Testament qui avait été donnée, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Quand l'Esprit de Dieu vient sur eux, et là, il commence à y avoir des manifestations surnaturelles qui se passent là. Il y a des gens qui commencent à parler des merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne connaissaient même pas. Et les gens commencent à poser des questions, à dire « Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Pierre dit « Voilà, c'est Joël qui est en train de s'accomplir. La prophétie du livre de Joël est en train de s'accomplir. Le Saint-Esprit promis a été donné. Et Dieu est en train, par son Esprit, de se créer un peuple nouveau. Dieu est en train de créer des chrétiens par son Esprit. Lorsqu'une personne devient chrétienne, cette personne-là est une nouvelle créature. Si vous êtes ici, vous cheminez dans la foi, vous posez des questions, vous écoutez tout ça, puis vous dites, je pense que j'aurais besoin d'avoir comme un guide dans ma vie, j'aurais besoin d'avoir quelque chose dans ma vie. Et plusieurs d'entre vous qui avez été élevés dans des foyers chrétiens, c'est comme ça que vous le voyez, vous dites, je pense que j'aurais besoin d'adopter ces principes-là. Oui. Le problème, c'est que tu ne peux pas les adopter par toi-même. Tu ne peux pas te lever un matin et dire, c'est cool, je renonce à cette vie-là, puis je commence celle-là. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ça prend une transplantation cardiaque. Parce que dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être intérieur, et lorsque les Juifs parlaient du cœur, ils parlaient de cet endroit où toutes nos décisions, notre volonté, le plus profond de nous-mêmes se trouve, dans ton cœur, nous dit la parole, et ça va avoir de la dure ce que je veux dire, mais ce qu'il y a là, c'est un cœur de pierre. C'est un cœur qui a des aspirations divines. C'est un cœur qui dit encore par moments, « Oh, il me semble qu'il y a plus que ça dans la vie. J'aimerais ça marcher dans cette vie-là. » Mais ce cœur-là est incapable par lui-même de se conditionner à faire cela. Il n'y a aucun être humain qui peut le faire par lui-même. Ça prend cette transplantation cardiaque, cette intervention surnaturelle de Dieu, où Dieu vient donner un cœur nouveau en donnant son esprit pour pouvoir vivre cela. Et lorsque Dieu fait cela, ta vision du monde change. Tu ne deviens pas parfait du jour au lendemain. Ta vision du monde change. Tu écoutes la parole de Dieu, puis ça résonne en ton cœur. Pas comme un paquet de culpabilité, un paquet de fardeau, mais comme un appel de Dieu, comme la voix de Dieu qui dit, « Viens, marche avec moi, mon enfant. » Et ta vision de Dieu change parce que tu sais dans le plus profond de ton cœur que le Père céleste t'a adopté. Il t'a adopté, tu es son enfant. Pas simplement parce que tu es une créature de Dieu. Dans ce sens-là, tout ce qu'il y a sur la terre est créature de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé l'univers. La lune, ça a été créé par Dieu. C'est une œuvre divine. Mon petit chien caniche, c'est une créature de Dieu. Mais quand tu nais de nouveau, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il y a quelque chose qui change. Et tu sais au plus profond de toi-même que Dieu est ton Père. Quand tu vas dans la prière, ce n'est pas simplement Dieu, Dieu, Dieu. Il y a quelque chose de nouveau qui est là. Tu ne dis pas, ça résonne en toi, papa. Papa. Il y a cette confiance, il y a cette assurance qui est là. Je sais que je vais troubler des chrétiens ce matin parce qu'à certains d'entre vous, vous allez dire, « Ouais, mais je ne vis pas ça. » Tu ne vis peut-être pas toujours ça. Si tu n'as jamais vécu ça, prends rendez-vous avec un ancien. Peut-être que tu n'es pas né de nouveau. Va rencontrer un chrétien mature, va lui dire, écoute, jamais ça a résonné en moi, ça. Peut-être que c'est pas ça, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut adresser avec la parole, mais je vous le dis franchement, quand tu es né de nouveau, il y a quelque chose qui résonne en toi, qui est complètement différent. Et il y a toujours cette espèce d'appel à vivre pour le royaume de Dieu, vivre pour l'éternité, vivre pour Dieu, vivre pour les autres. Et il y a des moments où on s'écarte, il y a des moments où on tombe, il y a des moments où on attriste l'esprit, comme on va voir tout à l'heure, mais en même temps, il y a toujours cet appel-là, cette aspiration-là qui est là. Certains d'entre vous, vous allez dire, « Oui, mais moi, j'ai toujours vécu ce désir-là. » Oui, mais en as-tu toujours la capacité? Alors peut-être que c'est là, ce désir-là. On t'a inculqué des principes quand tu étais jeune, puis tu te dis, j'ai toujours voulu comme glorifier Dieu. Ben, la question que j'ai pour toi ce matin, c'est, est-ce que le Saint-Esprit t'a créé comme chrétien? Est-ce que tu as eu ta transplantation cardiaque ou tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi? Parce que c'est comme ça que ça commence la vie chrétienne. Et comment on vit cette expérience-là? On le vit en plaçant notre foi en Jésus-Christ, dans son sacrifice. On le vit en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Dans Actes 2, 38, toujours dans le livre des Actes, Pierre est en train de prêcher, puis il annonce tout ce qui s'est passé avec Jésus, puis les gens sont là, puis ils l'écoutent, puis ils disent, « Oui, mais on a péché, on a livré Jésus à être sacrifié. Comment est-ce qu'on fait pour se repentir? Comment on fait pour revenir à Dieu? » Et voici ce que Pierre dit. Il dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et cette promesse est pour vous et pour tous ceux qui croiront après. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vivre cette expérience-là? Un jour dans ta vie, il y a une conviction qui vient dans ton cœur où l'Esprit de Dieu te convainc que tu as besoin de te réconcilier avec Dieu. Que tu as peut-être cherché Dieu dans ta vie, mais tu ne marchais pas avec Dieu, tu ne connaissais pas personnellement Dieu parce que tu ne connaissais pas Jésus-Christ, son Fils et son sacrifice accompli à la croix pour tes péchés. Et un jour, il y a cette conviction, dans notre langage à nous, on dit cette conviction de péché. Tu vois ton état profond, puis tu dis, je veux marcher avec Dieu, mais je suis étranger de Dieu. J'ai besoin qu'il m'accueille dans sa famille. Et le Saint-Esprit te révèle à travers des prédications, la lecture, des partages, le Saint-Esprit te révèle la beauté de ce que Christ a fait en mourant sur cette croix, en ressuscitant d'entre les morts. Paf, tes yeux s'ouvrent, les yeux de ton cœur s'ouvrent, puis tu te dis, il y a un espoir, je peux, moi, être totalement réconcilié avec Dieu, pas sur la base de ce que je vais réussir à faire, mais simplement parce qu'il m'accueille. Dans les deux prochaines semaines, on va avoir 7 baptêmes. Il y a des gens qui vont venir, si vous n'avez jamais assisté à une matinée avec des baptêmes, c'est vraiment beau à voir. Les gens vont venir partager très, très brièvement leur témoignage, comment est-ce qu'ils en sont venus à rencontrer, connaître personnellement Jésus-Christ. Toutes des histoires différentes, des histoires personnelles. Et on va voir ça. Et la semaine prochaine, on va parler de cette mort qui est nécessaire. Puis la semaine d'ensuite, on va parler de cette résurrection qui vient lorsqu'on connaît personnellement Jésus-Christ. Lorsqu'on lit les Actes, on voit que c'est pas le baptême d'eau qui produit la nouvelle naissance, même si ça semble être induit un peu dans le passage que j'ai cité. Mais plus tard, il y a des gens qui reçoivent l'Esprit, ils n'ont pas été baptisés, puis ils ont dit, bon, ben, ils sont chrétiens, il faut les baptiser. Mais c'est quelque chose qui accompagne intimement ce moment de la conversion de la nouvelle naissance. Et c'est pour ça qu'on se réjouit lorsque des chrétiens font ce pas de foi, dire, je veux m'afficher, je veux m'identifier avec la mort, la résurrection de Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême. Est-ce que le Saint-Esprit t'a créé comme chrétien? Est-ce que le Saint-Esprit t'a créé comme chrétien? C'est la première question, la plus importante. Le Saint-Esprit crée les chrétiens. Le Saint-Esprit crée l'Église. Mais son ministère dans le livre des Actes ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas ici. Ça va faire toute la différence. On rêve de voir des milliers de personnes du Grand Longueuil venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. C'est lui qui va le faire parce que c'est lui qui crée les chrétiens. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit conduit l'Église. Comment on prend une église comme ça puis on la transforme vraiment pour qu'elle ressemble totalement à ce qu'on voit là? Pas qu'on y est pas, mais on veut plus que ça, beaucoup plus que ça. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Si je vous posais la question, on va voir si vous êtes des bons étudiants de la Bible, c'est qui le chef de l'église? C'est Jésus-Christ, c'est vrai? C'est qui la tête de l'église? C'est Jésus-Christ. Maintenant, moi, je vous dis que lorsqu'on lit le livre des Actes des apôtres, on ne voit pas souvent Jésus intervenir autant que le Saint-Esprit. Et ce qu'on voit lorsqu'on lit le livre des Actes, c'est que l'Esprit est l'Esprit de Christ et c'est lui qui est en train de conduire. Maintenant, Jésus est retourné auprès du Père, il est invisible et donc, pour nous, tout ça peut devenir très théorique puis on se dit, il n'est pas là. Donc, c'est qui conduit l'Église? C'est les pasteurs. Que Dieu nous en préserve. Je vous le dis, ma femme a prié pour que ce ne soit pas moi qui conduise l'Église. Plus mes enfants grandissent, plus ils se disent « Non, il ne faut pas que ce soit papa qui conduise l'Église. » S'il conduit l'Église comme il nous conduit, je pense pas. On a besoin du Saint-Esprit. Alors, à travers le livre des Actes, ce qu'on voit, c'est, oui, c'est sûr, c'est Christ qui est le chef de l'Église, mais l'agent par lequel tout le travail se fait, c'est l'Esprit de Christ. Et c'est pas de la théorie ce que je suis en train de dire là, d'accord? On va le voir ensemble, c'est pas de la théorie. Même s'il est invisible, il est là. Et ça nous demande à nous, comme Église, d'être attentifs, d'être disponibles, d'être sensibles à ce que l'Esprit est en train de faire au milieu de nous. Dans Actes 1, les versets 1 et 2, c'est très, très fort ce qu'on voit là. Lorsque je parlais tout à l'heure du ministère de l'Esprit dans la vie de Jésus, écoutez bien ceci. Jusqu'au jour où il fut enlevé, parlant de Jésus, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il me semble qu'il est assez grand pour donner ses ordres. Jésus donne ses ordres par le Saint-Esprit. L'Esprit est là, puis il est en train de conduire même Jésus à travers ça. Pourtant, on parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit. L'Esprit procède du Père et du Fils. Lorsqu'on essaie de comprendre ce mystère-là de la Trinité, l'espèce d'ordre hiérarchique qu'il y a dans tout ça, mais l'Esprit procède du Père et du Fils. Et pourtant, c'est par l'Esprit que Jésus donne ses ordres. Le Saint-Esprit met à part, je vais vous lire quelques versets très rapidement, dans Acte 13, versets 1 et 2. « Pendant qu'ils servaient le Seigneur, on parle des leaders de l'Église d'Antioche, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors nous, on est là, puis on forme des gens, puis on a des ce qu'on appelle chez nous des serviteurs en formation qui aspirent au ministère pastoral, puis on s'investit. Mais à quelque part dans le processus, il va falloir que le Saint-Esprit nous dise « Oui, celui-là, mettez-le-moi à part, il est appelé pour ça. » Je viens un petit peu aux commandes dans quelques instants. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Et ça change les choses, parce que lorsqu'on est en train d'avancer comme Église, puis lorsque moi, des fois, je me lève le lundi matin après mon dimanche, wow, je suis hype, puis là, j'arrive le dimanche matin, ma pile est à plat. Ceux qui me lisaient un petit peu sur Facebook, voilà une couple de semaines, ma pile était à plat, j'étais juste comme « down ». Puis là, je disais au Seigneur, mais pourquoi je suis down? Tout va bien, t'es tellement bon, c'est incroyable. Mais j'avais plus de jus dans la batterie. Et j'ai besoin de me rappeler. Oh, mais c'est qui t'a mis à part pour l'œuvre à laquelle il t'avait appelé? C'est Saint-Esprit, Yannick. C'est pas une œuvre humaine, c'est le Saint-Esprit de Dieu. OK. C'est lui qui met à part, c'est lui qui place les pasteurs dans un but précis. Dans Actes 20, versets 27-28, voici ce qu'on lit. Paul est en train de s'adresser aux pasteurs de l'église d'Éphèse, aux anciens d'Éphèse, et voici ce qu'il leur dit. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, parlant de l'église comme des brebis précieuses à prendre soin, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Il dit pas le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire surveillant, pour paître, pour prendre soin de l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est l'Esprit Saint qui établit, qui met en place. C'est l'Esprit Saint qui envoie des missionnaires. C'est l'Église qui envoie. C'est l'Esprit qui envoie à travers l'Église. Dans Actes 13, versets 3 et 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Envoyés par le Saint-Esprit. Alors, question pratique. Parce que c'est ça la question. Tu te dis, OK, c'est quoi, ils textaient? Il n'y avait pas de texto, ça ne marchait pas. Il écrivait sur les murs, rarement. Comment est-ce qu'il parlait? Mais lorsqu'on étudie tout le livre des Actes, je vais te dire des choses qui vont peut-être vous mettre mal à l'aise ce matin. Bear with me, puis si vous n'êtes pas d'accord, allez lire les Actes, vous vous astinerez avec Dieu. C'est bon? Comment est-ce que l'Esprit parle? L'Esprit parle premièrement à travers la parole de Dieu. Premièrement. Je m'en tiens juste au livre des Actes, d'accord, pour donner les réponses que je vous apporte là. À travers les livres des Actes, à plusieurs reprises à travers ce livre-là, les apôtres vont dire l'Esprit qui parlait par les prophètes, l'Esprit qui parlait dans l'Ancien Testament. L'Esprit parle premièrement à travers la parole de Dieu parce que c'est lui qui l'a inspiré, la parole. Alors, on a besoin d'aller dans les Écritures. Vous dites, oui, mais l'Esprit ne me parle jamais. Mais est-ce que tu vas premièrement dans la parole de Dieu? Est-ce que tu lis les Écritures? Oui, mais je me sens pas près de Dieu. J'entends pas cette proximité-là avec Dieu. Oui, mais il parle premièrement à travers sa parole. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, on ouvre les Écritures Et par la grâce de Dieu, ce qu'on cherche à chaque dimanche, c'est de vous apporter un message qui est tiré de la parole de Dieu, qui ne vient pas d'un homme. Il y a des choses que je vais dire ce matin, c'est comme pas ma zone de confort à moi. C'est trop capoté. Moi, je suis plus terre à terre. Mais la Bible dit, je vais le dire. La Bible l'affirme, je vais le croire. La Bible me dit de le pratiquer, je vais le pratiquer, point. Parce que l'Esprit parle premièrement à travers sa parole. Et donc, si vous voulez que l'Esprit vous parle, restez près de la parole de Dieu. Vous dites, non, moi, l'Esprit me parle surtout dans la prière. Faut que tu grandisses. Faut que tu grandisses. L'Esprit parle parfois à travers la prière, parle généralement à travers sa parole. Alors, tu lis les Écritures, tu médites les Écritures, tu mémorises les Écritures. Tu as de la misère à lire les Écritures, mémorise des passages des Écritures. Laisse-les là. Et tu vas vivre des moments, des expériences où tu vas être en train de vivre quelque chose, puis je vais prendre le langage biblique. Il va y avoir une onction. L'Esprit va venir, il va venir arroser, faire féconder cette parole-là qui est là dans ta tête, qui est là comme une information théorique. Et tout d'un coup, dans une circonstance, dans un moment, pouf, cette parole-là va prendre vie dans ton cœur. Tu vas dire, merci Seigneur. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Là, j'ai trouvé la force. Là, j'ai trouvé le courage pour résister, pour combattre, pour ouvrir la bouche, pour aimer, pour me donner, pour être charitable, pour me repentir, pour demander pardon. Parce que la parole est là, mémorise les Écritures. Tu viens le dimanche ici, viens dans cette attente, cette expectative de dire, je veux que l'Esprit de Dieu me parle. Parce qu'ils ouvrent la Bible dans cette église-là, puis ils font juste exposer les Écritures, c'est ça qu'ils cherchent à faire. Je veux que Dieu me parle, j'attends, je veux entendre l'Esprit de Dieu me parler. Deuxièmement, comment est-ce que l'Esprit parle? Des fois, de manière presque audible. OK, c'est là que je deviens flyé. Des fois, de manière presque audible, c'est clair dans les actes que c'est pas juste des impressions. Et je vous avoue bien, bien sincèrement que si vous venez me voir et vous me dites, Yannick, l'Esprit m'a parlé, je vais vous demander, OK, quel passage il t'a donné? Deuxième chose, je vais te dire, OK, dis-moi qu'est-ce qu'il t'a dit, j'aimerais avoir des mots. Plus que des impressions. Je dis pas qu'il peut pas parler à travers des impressions. À un moment donné, Pierre reçoit une vision, puis dans sa vision, il voit cette nappe et tout ça, et puis il doit accueillir, dans le fond, les païens et tout ça, puis là, il doit manger des aliments impurs, et Dieu est en train de le préparer à accueillir les païens, puis sa vision se termine, puis pendant qu'il est dans la prière, voici ce qui est dit, le Saint-Esprit dit à Pierre, trois hommes te demandent, et c'est presque audible cette affaire-là, tu sais. Je ne sais pas si ça vibrait dans son tympan, dans son cerveau, c'est où que ça s'est passé, mais il y avait des mots. Et donc, l'Esprit, parfois, intervient de manière pratiquement audible dans le cœur du chrétien. Et on vit des expériences qui sont spéciales. Personnellement, je n'en ai pas vécu des centaines de moments où c'était clair que l'Esprit est en train de faire quelque chose, mais j'ai déjà partagé avec l'Église. Je priais pour quelqu'un, pour son salut, puis à un moment donné, j'étais juste dans la prière, puis... Excusez-moi, mais je pleurais tellement à cœur de voir cette personne-là venir à Christ. Puis à un certain moment donné, conviction, je savais qu'elle allait se convertir. Je vous dis, ça ne marche pas toujours de même la prière. Conviction, à partir de ce moment-là, tout ce que je faisais, je disais merci Seigneur. Je pleurais de joie, puis j'ai dit merci Seigneur, elle va devenir chrétienne. Je le savais, c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a dit. Quelques mois plus tard, elle s'est convertie. Et ça se passe pas toujours comme ça. Quand je choisis entre la confiture et le beurre de peanut le matin, ça se passe pas de même, vous comprenez? J'ai même pas besoin de la Bible. Ça va? J'écoute une diététicienne, puis je mange des œufs dégueulasses dans mon jus de raisin. Mais des fois, l'Esprit parle de manière pratiquement audible. L'Esprit parle souvent à travers les leaders de l'Église. Et lorsqu'il le fait... Là, je vais employer un grand terme. Il le fait en donnant une conviction consensuelle aux leaders. Et ça, on le voit à plusieurs reprises dans le livre des Actes. On travaille avec un collège d'anciens, un collège de pasteurs. Vous me voyez, moi, généralement, en avant. Faites-vous en pas, je ne suis pas tout seul. Il y a plein de gars qui me checkent. OK? Et on travaille, on est plusieurs pasteurs, on est plusieurs anciens, et on va dans la prière, et c'est ça qu'on voit dans les actes. Il y a quelques semaines, on a pris une retraite de prière ensemble, on est allé dans la prière ensemble, les anciens, puis je suis arrivé, j'ai partagé ce qui me semblait être la vision pour les prochaines années, je croyais que ça venait de Dieu, et j'ai partagé ça avec les gars, puis on a prié, puis on a échangé, et le consensus, la conviction s'est imposée très rapidement. Ça se passe pas toujours comme ça, mais très rapidement. Et on est parti de là avec cette conviction dans notre cœur. Paf, ça vient de Dieu, cette affaire-là. Et souvent, dans le livre des Actes, Dieu parle, l'Esprit de Dieu parle à travers les leaders avec une conviction où il y a un consensus très fort qui s'impose. Et l'Esprit de Dieu parle souvent aussi par le « Amen » qui va venir de l'Église. Alors, au Concile de Jérusalem, dans le livre des Actes, grosse question, grosse décision, les leaders sont là, réfléchissent, prient, discutent ensemble, l'Église participe, on ne sait pas exactement à quel moment la réflexion, et lorsqu'ils prennent une décision, voici comment ils racontent ça, il parut bon à nous, à l'Église, au Saint-Esprit, de faire ceci. Et donc, dans différents moments dans l'histoire de cette Église, on va aller, on va vous consulter, on demande à l'Église de s'exprimer à travers un vote. Et c'est pas parce qu'on est comme dans une incorporation, puis on a des droits légaux, puis il faut avoir des membres parce qu'il y a des questions légales, tout ça. C'est pas ça, là. C'est une conviction biblique qu'on a. Si tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, puis qu'on est toute une gang, puis qu'il a dit quelque chose aux anciens, il va y avoir une grande, 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 grande majorité de personnes dans la salle qui vont dire « Amen ». C'est clair que ça vient de Dieu parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Dans la prochaine année, dans les deux prochaines années, il y a plein de choses qui s'en viennent avec cette vision pour avancer ensemble. Et il y a des moments où on va venir devant vous et on va vous dire « Allez dans la prière, on a des choses à vous présenter et on veut savoir, on veut confirmer, parce que nous, on a la conviction, mais on veut confirmer que ça vient de Dieu. » Et votre réponse est déterminante dans ça parce qu'on a cette conviction que Dieu parle à travers l'Église aussi. Et enfin, comment est-ce que l'Esprit parle? Il parle aussi à travers des circonstances. Alors, l'Esprit parle premièrement à travers sa parole. Si la parole de Dieu est vraiment absente dans ta vie personnelle, c'est difficile pour toi d'entendre régulièrement l'Esprit Saint parler. Difficile. Il parle deuxièmement, des fois de manière pratiquement audible. Et pour moi, c'est plus que juste des impressions. C'est quelque chose de très fort qui va pouvoir se confirmer par la parole. Ça concorde avec la parole de Dieu. C'est plus exceptionnel, clairement, dans les Actes. L'Esprit va parler à travers les leaders qui vont trouver une conviction avec un consensus très fort. Souvent, il va parler là. Voyez, lorsqu'il y a le conflit entre Paul et Barnabas, Luc dit pas, le Saint-Esprit dit à Paul, mais il l'avait pas dit à Barnabas. Il n'y a comme pas de commentaire sur le Saint-Esprit dans ce conflit-là entre les deux boys. C'est pas clair, il est de quel bord. L'Esprit parle à travers les leaders, il y a un consensus, une conviction très forte, il parle à travers l'Église et il parle à travers les circonstances où parfois il va arrêter Paul qui veut aller dans telle direction, puis c'est pas clair, mais le Saint-Esprit lui a empêché d'aller par là et donc il va parler aussi à travers les circonstances. Maintenant, je veux adresser quelque chose ce matin, toute la question dans le livre des Actes, des visions, des songes qu'on voit dans les Actes des apôtres et je veux juste mentionner quelque chose tout de suite. En 2014, je vais faire une série où je vais aller adresser la question des dons miraculeux. Je pensais de l'adresser à travers cette prédication-là, d'accord? Mais pour être franc avec vous, lorsqu'on étudie le livre des Actes, qui ressort beaucoup plus que les miracles, beaucoup plus que le parler en langue, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit à travers tout le livre des Actes. Alors, je préférais me concentrer sur qu'est-ce que l'Esprit Saint fait à travers le livre des Actes. 2014, on va faire une brève série sur les dons miraculeux, les dons spirituels, la question des miracles, comment est-ce que Dieu opère, qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui, tout ça. On va revenir sur ça. Alors, je sais que je vais laisser quelques-uns d'entre vous sur votre faim. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur la question des visions, des songes qu'il y a dans le livre des Actes? Est-ce que Dieu fait ça encore aujourd'hui? Premier commentaire que je veux faire, il semble que les visions, les songes viennent plus généralement du Seigneur lui-même, d'anges de l'Éternel, d'anges qui sont envoyés par Dieu que par l'Esprit. Il y a une instance, il y a un moment où c'est l'Esprit qui donne une vision, mais comme une vision, c'est en principe visible, bien, plus souvent, il semble y avoir une apparition du Seigneur, une intervention du Seigneur, un ange de Dieu qui est envoyé. D'accord? Simple commentaire. Est-ce que Dieu fait ça encore aujourd'hui? On parle de ça une autre fois. D'accord? Est-ce que Dieu fait ça encore aujourd'hui? Oui. Dieu fait ça encore aujourd'hui. Dieu fait ça encore aujourd'hui. Il le fait de la même manière qu'il le faisait à l'époque, exceptionnellement. Ça, c'est vraiment important ce que je veux dire ici. D'accord? Dieu est le même. Dieu fait des choses incroyables. Certains d'entre vous, vous avez vécu des expériences bizarres. Puis quand vous nous contez ça, je dis, « Oh, Dieu, t'es étrange. » Non, mais j'ai des histoires de conversion qui me reviennent à l'esprit. Puis, « Oh, c'est weird. » Mais Dieu te l'a donné, c'est correct. Dieu le fait de la même manière qu'il le faisait à l'époque. Il le fait exceptionnellement. D'accord? Il le fait exceptionnellement et ça, c'est vraiment important. Et lorsqu'il le fait, ce que je vois dans les Actes, c'est souvent en relation avec la mission. Je ne vois pas beaucoup d'instances qui disent, cette maison-là ou cette maison-là que je vais acheter. J'ai vu une grosse maison, elle valait 4 millions. Je pense qu'il faut que j'aille m'acheter un billet de loto. Il n'y a pas beaucoup de ça, vous comprenez? C'est toujours dans la poursuite du royaume, constamment. Et donc, lorsque ça se passe, généralement, ça semble être lié à la mission. Il y a quelque chose d'autre que je veux dire qui est important. Et si vous voulez me challenger là-dessus, allez lire les actes. C'est souvent les leaders. Vous irez étudier les miracles dans le livre des actes. C'est intimement lié avec les leaders. Maintenant, moi, ça ne m'arrive pas souvent, mais c'est souvent avec les leaders. D'accord? Et comme j'ai dit, c'est quelque chose de clair. C'est pas une grosse indigestion à 4 heures du matin qui fait que tu as vécu un mauvais rêve. D'accord? J'ai des gens qui sont venus me partager des rêves. Des fois, je vous dirais même pas, mais ça fait peur. Si la personne avait raison, moi, je m'en allais me tirer en bas du pont parce que ce qu'elle avait à me dire sur moi, là, ça faisait vraiment peur. Mais la personne n'osait pas dire que c'était une vision. Elle faisait juste dire, j'ai rêvé à toi, Yannick. Je veux dire, je savais pas si j'étais chrétien, si son rêve était vrai, d'accord? Alors, les visions, les songes, ce sont des choses claires que Dieu donne dans des moments exceptionnels, souvent en relation avec la mission. Souvent à travers des leaders, d'accord? Mais Dieu le fait encore aujourd'hui. On a des récits particulièrement sur le champ missionnaire, plus souvent. Et donc, ça concorde avec ce qu'on voit dans les actes. Ce sont des choses exceptionnelles, mais ça arrive encore aujourd'hui. Personnellement, je n'ai pas de problème avec ça. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir, puis Yannick, j'ai quelque chose, j'aimerais ça de partager ça. Je le prends, on met ça dans la prière. Des fois, je vais le partager avec les anciens, on met ça dans la prière. On laisse entre les mains de Dieu. C'est le Dieu des miracles, d'accord? Et si ça vient de Dieu, Dieu va confirmer. Maintenant, la dernière chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on doit rechercher. Et ça, c'est vraiment important. Il y a des gens dans les milieux évangéliques qui cherchent des visions et des songes. Je ne vois jamais ça dans les Écritures. OK, les tripeux de songes et de visions qui vont dans la prière pour trouver une espèce d'état physique de mantra bouddhiste. Vous comprenez? Qui vont pouf rentrer dans un état second, puis il y en a 48 par année des affaires de même. Parce qu'ils cherchent ça. Jamais je vois ça dans les Écritures. Et ça, c'est vraiment important. Parce que lorsque quelqu'un vient nous voir avec un songe, une vision, on met ça dans la prière et on examine ces choses-là. Elles doivent être sondées. Et donc, si vous êtes de ces gens qui cherchez ces choses-là, votre théologie de la prière, la communion avec Dieu est profondément non biblique. Vous devez ajuster ces choses-là. Quand ça se produit, ça vient de Dieu, ça finit là. Quand je vais dans la prière, je vais dans la prière pour adorer mon Dieu, pour élever sa gloire. Je vais dans la prière pour confesser mes péchés. Je vais dans la prière pour intercéder pour l'Église, pour prier pour ma ville, pour prier pour ma famille. C'est ça que je vais faire dans la prière. Et si Dieu veut me surprendre, il me surprendra. Mais lorsque j'ai eu cette conviction que cette personne allait devenir chrétienne, j'étais pas là en train d'essayer de me conditionner à dire « Si je crois assez fort, je vais réussir à tordre le bras de Dieu, puis il va être obligé de le faire. » Vous comprenez? C'est pas ça que j'étais en train de vivre. Je faisais juste répandre mon cœur devant Dieu, j'étais bouleversé, je pleurais, puis paf, ça m'a surpris, ça. Et j'ai dit « Wow, ça vient de toi, Seigneur. C'est pas moi qui ai conditionné ça. » Deux choses à date, crée des chrétiens, crée l'Église, conduit l'Église. Il conduit l'Église. Et si on veut voir une Église semblable, il faut avoir cette confiance qu'il va le faire. Troisième chose, je savais que j'allais être long ce matin, je suis désolé. Troisième chose, et pour moi c'est la plus importante dans le livre des Actes. Et c'est ça que j'attends le plus dans mon cœur, je vous avoue, pour cette assemblée. La troisième chose, il prend des gens ordinaires et il fait d'eux des missionnaires courageux pour annoncer l'Évangile. Et ce qui ressort le plus fortement à travers tout le livre des Actes, c'est que Dieu a pris une poignée d'hommes et de femmes qui étaient des peureux, qui s'étaient sauvés, qui n'étaient pas des théologiens, qui n'étaient pas courageux, et lorsque l'Esprit est venu en eux, il a délié leur langue. Et ils se sont mis à annoncer l'Évangile. C'est frappant, quand tu prends juste le Saint-Esprit à travers tout le livre des Actes, tu dis « le Saint-Esprit fait parler les gens ». Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit fait parler les écrivains et les prophètes qui doivent rédiger les Saintes Écritures. Donc, il inspire les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit vient sur Jésus afin qu'il annonce une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit vient sur Jean-Baptiste afin qu'il annonce, qu'il prophétise la venue du Messie. Le Saint-Esprit vient sur les croyants au jour de la Pentecôte à travers une manifestation surnaturelle où ils commencent à parler dans toutes sortes de langues humaines à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent les merveilles de Dieu, délient leur langue. Et Pierre se retrouve devant les chefs et qu'est-ce qu'il dit? Rempli du Saint-Esprit, il leur dit, chef religieux, chef du peuple. Constamment à travers le livre des Actes, la principale œuvre que l'Esprit fait après les conversions, après créer des croyants, la principale œuvre qu'il fait, c'est qu'il prend des gens ordinaires comme vous et moi et il les transforme en missionnaires courageux, remplis d'assurance pour annoncer ce message de paix aux gens. Quelles que soient les incidences, quels que soient les dangers, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit avec des voisins, que ce soit avec la famille, et c'est fait dans un esprit de grâce, c'est fait dans un esprit d'humilité, mais l'œuvre que l'Esprit vient faire, c'est qu'il vient transformer des gens ordinaires comme vous et moi. Et il leur donne une assurance nouvelle pour ouvrir la bouche et annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est l'œuvre la plus présente, la plus constante qu'on trouve à travers le livre des Actes. Dans Actes 4, 31, on lit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Comment est-ce que cette Église va pouvoir faire ça? Ça va être par l'Esprit de Dieu qui va nous remplir de cette assurance-là. J'ai partagé souvent avec l'Église que je suis un gars timide, puis vous, vous êtes habitué de me voir faire le clown en avant, fait que vous dites, Yannick, c'est pas un gars timide. Invitez-moi chez vous avec vos voisins à manger, vous allez voir, j'ai comme rien à dire. Ça m'a beaucoup consolé quand je suis allé manger au restaurant avec John Piper, puis je l'ai vu, il y avait juste quelque chose à dire à son steak. Je dis, il était là à côté de moi, je me suis dit, je mange avec John Piper. C'est comme, waouh! Il ne m'a pas parlé. Tant que je ne posais pas des questions théologiques, il fallait lancer quelque chose comme, est-ce que c'est vrai que, qu'est-ce que vous pensez de... Là, il partait. Avant ça, il n'y avait rien à dire. Honnêtement, là, je veux dire, c'est comme froid. Ça me fait du bien. Parce que je suis un gars timide. Et très tôt dans ma vie chrétienne, il y a un passage qui m'a énormément encouragé. C'est dans 2 Timothée 1:7. Et j'ai besoin de méditer ça et je vous le donne parce que plusieurs d'entre vous, vous ne voyez pas annoncer l'Évangile avec courage. 2 Timothée 1:7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Vous savez, dans le livre des Actes, une des choses que j'aurais aimé développer avec vous ce matin, c'est qu'on peut s'opposer à l'œuvre de l'Esprit. Dans le livre des Actes, on rencontre des gens qui littéralement s'opposent à l'œuvre de l'Esprit. Dans le livre des Actes, on rencontre des gens qui mentent au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils essaient d'avoir de l'air plus spirituel qu'ils sont, ils essaient de paraître être ce qu'ils ne sont pas. Et ils mentent à l'Esprit de Dieu. Ailleurs, dans les Écritures, on voit que c'est possible d'attrister l'Esprit. C'est possible, voire même, d'éteindre l'Esprit de Dieu. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans votre communion avec Dieu, dans votre disponibilité. Mais ce que je vois à travers le livre des Actes, c'est que ça commence souvent dans la prière, où on va dans la prière puis on confesse à Dieu notre indépendance envers lui. On commence à confesser à Dieu des moments où l'Esprit nous a parlé à travers sa parole. Il nous avait parlé, c'était clair, mais on a résisté. On n'a pas écouté ce qu'il est en train de dire. À travers un message, une conviction qu'il y a une repentance qui doit venir, il y a une réponse qui doit venir, il y a un geste, il y a un pas qui doit être fait, un acte de foi qui doit être fait, puis il y a eu une résistance, puis j'ai peut-être attristé à quelque part le Saint-Esprit. Et on dirait que c'est comme je ne l'entends plus, il ne me parle plus, les messages ne me parlent plus, la parole ne me parle plus. Quand des frères viennent me voir, c'est toujours des fardeaux, c'est toujours lourd à porter. Et marcher avec Dieu, ça me semble quelque chose qui était d'une autre époque dans ma vie. Et peut-être que c'est là que vous êtes. Mais voyez-vous, notre rêve, c'est de voir des milliers de gens à Longueuil. Des milliers de gens dans le Grand Longueuil venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Notre rêve, c'est de voir une Église qui est remplie d'assurance, de courage pour ouvrir la bouche et annoncer ce message de paix, de réconciliation avec Dieu. Notre rêve, c'est de voir une Église qui marche tout près de Dieu dans son cœur, qui a cette disponibilité devant Dieu à ce que l'Esprit parle régulièrement. Notre rêve, c'est de voir une Église qui a le cœur sur la main, qui déborde de générosité envers son prochain. C'est une des marques tellement claires de l'œuvre de l'Esprit. Et cela ne se fera pas à travers une vision qu'on va apporter ici, même si on va en apporter une. Ça ne se fera pas à travers des stratégies, même si on va en avoir. Ça ne se fera pas à travers des leaders charismatiques qui sont en train de mourir pour Dieu sur l'estrade. Ça va se faire par une personne, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Et si Dieu ne t'a pas créé comme chrétien, si tu n'as pas reçu l'Esprit Saint de Dieu, viens les deux prochains dimanches écouter les témoignages de nouvelles naissances avec les baptêmes. Et si tu n'entends plus l'Esprit parler depuis longtemps, commence à aller dans la prière et écoute les chants qui suivent et laisse l'Esprit de Dieu te parler. Parce que ce qu'on veut voir se produire ici, c'est le Saint-Esprit qui va le produire. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi dans la prière. Et Seigneur, on veut élever ton nom. On veut reconnaître, Seigneur, que c'est toi qui fais cette œuvre merveilleuse dans nos cœurs. On veut reconnaître, Seigneur, que ce ne sont pas des stratégies, ce n'est pas des visions humaines, ce n'est pas des plans de match qui vont faire la différence. Parce que ce qu'on veut voir, Seigneur, ce sont des nouvelles naissances. Ce sont des chirurgies cardiaques où tu viens donner ton esprit, Seigneur. Et ce qu'on veut voir dans cette Église, c'est une conviction de plus en plus grande que tout ce qu'on fait, chaque pas qu'on fait en assemblée, ça vient de toi, Seigneur. C'est pas des leaders qui l'ont planifié dans un bureau, mais ce sont des projets qui ont été donnés dans la prière, qui ont été confirmés par toi et que tu bénis abondamment, Seigneur. Ce qu'on rêve, c'est pas de voir, Seigneur, 1, 2, 3, 4, 10 baptêmes par année. Ce sont des centaines, Seigneur, qu'on veut voir. Pas parce qu'on veut paraître comme Église, mais parce que chaque personne dans le Grand Longueuil a besoin de te connaître personnellement, Seigneur. Et tu veux que tous les hommes soient sauvés. Seigneur Jésus, tu nous as donné ton esprit. Et là où on a pu attrister ton esprit, Seigneur, viens nous convaincre. Et Seigneur, viens remplir nos cœurs d'adoration, de louange. Comme tu nous dis dans le livre des Actes, remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient les merveilles de Dieu, car tu es un Dieu merveilleux. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.